J'aimerais tellement que ce message ce matin ne soit pas simplement une prédication, j'aimerais que ce soit un plaidoyer, vraiment un plaidoyer, parce que c'est, me semble-t-il, quelque chose qui résonne et il nous faut prendre en considération cette vérité-là. Mes frères et sœurs, il faut prier. Il faut prier. Et certainement plus qu'on le fait. Il faut prier. On va lire ensemble quelques versets du livre de Néhémie. Ce sera notre texte d'introduction. Néhémie, chapitre 1er, et on va lire les versets 2 à 4. Néhémie, chapitre 1er, versets 2 à 4. Quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Amen. Je posais des questions et quand j'entendis les nouvelles, je fus abattu, je pleurais, je jeûnais et je priais demandant au Seigneur sa grâce. Frères et sœurs, on ne va pas se voiler la face, hein. On va être très franc et on va être très honnête. Je crois qu'aujourd'hui on est obligé de faire un constat, l'Église avec un grand E, c'est-à-dire à travers le monde entier, l'Église est secouée. L'Église est largement malmenée. On parle beaucoup de persécution, on parle beaucoup de confusion, on parle beaucoup de division. Il y a certainement, à l'heure actuelle, des courants de pensée. L'apôtre Paul dira courants philosophiques, des courants de pensée qui font un travail souterrain, un travail par en dessous. Et ça lève régulièrement dans les églises, et vous avez des églises encore aujourd'hui qui se déchirent. C'est assez incroyable parce qu'on croit la même espérance, le même Dieu, on est rempli de l'amour de Dieu et on va se déchirer sur des points de doctrine qui n'en sont pas. On se laisse séduire, on se laisse envahir par des choses comme cela. Et ça, c'est dramatique. Et si on a la chance, en France encore, pour d'une certaine manière, de ne pas être persécuté comme en Inde et comme en Afrique ou dans d'autres pays. Par contre, ce qui nous concerne de très près, et ça c'est un constat, on ne va pas se voiler la face, on a beaucoup de gens qui sont malades et qui ne sont pas guéris. On a beaucoup de familles qui sont éclatées, pour ne pas dire explosées. On a des couples qui sont en danger dans notre Église. On ne va pas aller loin, hein. Dans notre Église, c'est des situations qui existent. On a des enfants qui sont perdus. Des gens qui ont grandi dans l'Église, ils ne sont pas dans l'Église. Des gens qui ont fait l'école du dimanche, ils ne sont pas là. Ils sont où? On n'en sait rien. Mais ils sont loin de l'Église. Ça, c'est dramatique, frères et sœurs. C'est dramatique. Je ne sais pas si cette situation-là, elle est pire que la situation de Néhémie qui demande des nouvelles de Jérusalem. Je ne pense pas que ce soit moins grave ce qui nous arrive aujourd'hui que ce qui est arrivé du temps de Néhémie pour Jérusalem. Alors, on subit, j'ai l'impression, de plein fouet ces choses-là. Évidemment, en y regardant de près, je constate aussi que vous, comme moi, si vous êtes dans l'Église depuis des dizaines d'années, vous savez que les problèmes ont toujours existé. Ce serait idiot de dire que ça n'a jamais été comme ça. Non, il y a toujours eu des problèmes, il y a toujours eu des couples en danger, il y a toujours eu des familles explosées, il y a toujours eu des malades, il y a toujours eu des cas pour lesquels on a prié pendant des années et puis on ne voit pas le résultat. Il y a toujours eu des gens qui ont des enfants qui ont grandi à l'école du dimanche, qui ont fait les clubs des ados, qui ont été dans les groupes de jeunes et qui ont quitté l'église en claquant la porte, en disant « j'en veux plus » et aujourd'hui ils sont dans un désert épouvantable et très brûlant. Ça a toujours été le cas, mais j'ai l'impression qu'on prend de plus en plus de coups aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est la même chose en pire. C'est la même chose d'une manière accélérée. Il ne se passe pas, frères et sœurs, une semaine sans qu'on apprenne une mauvaise nouvelle. Pas une semaine. Je ne vais pas dire qu'il ne se passe pas un jour, ce serait quand même terrible, mais j'ai l'impression qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'on n'entende pas parler d'un frère, d'une sœur, cancer, maladie, douleur, décès, rétrograde, partie de l'Église, etc., dispute, colère, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on fait face à ça? On regarde, et on pleure, on dit, c'est la vie, les temps sont durs, on ne peut rien faire. C'est pas possible. Quand on regarde un petit peu la situation de l'Église aujourd'hui, il faut quand même regarder les choses telles qu'elles sont. Vous avez deux textes, notamment, qui en parlent. Dans les Éphésiens, j'ai noté juste quelques points, pas le texte tout en entier, mais je peux vous le lire dans tout le contexte. Parce que dans tout le contexte, il y a un parallèle que l'apôtre Paul fait entre le mariage, le couple, l'homme et la femme, le mari et l'épouse, et puis Christ et l'Église, puisque l'Église est l'épouse. Donc voici ce qu'il dit, à partir du verset 23. Le mari est le chef de la femme comme Christ, et je note à l'écran, vous avez noté ce qui est important de retenir, comme Christ est le chef de l'Église. Souvenez-vous de cela. Il nous arrive tous ces malheurs, et pourtant, Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Car ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Je vous ai lu tout cela afin que l'on comprenne, frères et sœurs, que tout ce qui nous arrive, certains diront c'est inévitable, mais moi je dis mince. Il nous arrive tous ces malheurs, toutes ces catastrophes, et pourtant, nous sommes le corps de Christ. Il est le chef de l'Église. Il aime l'Église. Il la nourrit. Il en prend soin. Il la sanctifie grâce à sa parole. Et il a décidé qu'elle paraîtrait un jour devant lui, glorieuse, sans tache, sans ride, sainte et irrépréhensible. Alors moi, je ne crois pas qu'il ait prévu que l'Église devienne de plus en plus sale, souillée, faible, fragile, et qu'au moment de l'enlèvement, par un coup de baguette magique, on va transformer tout cela et ça va être extraordinaire, immaculé là-haut. Je crois qu'il y a un travail à faire ici-bas quand même. Je crois qu'il y a quelque chose qui doit être du reflet de ce qu'est la gloire de Dieu. Nous sommes transformés en la même image, dira Paul aux Corinthiens, transformés en la même image. C'est quand même le but. Et si l'Église n'est pas un phare, si l'Église ne rayonne pas, c'est sûr que le monde n'a plus beaucoup d'espoir. Alors pourtant, l'Église est belle. Pourtant, l'Église, elle doit être, elle doit rayonner, évidemment. Et pourquoi est-ce qu'elle rayonnera, sachant que le prix a été payé? L'apôtre Paul le dit aux Colossiens, tout de même, au chapitre 2 et au verset 9. En lui, en Christ, habite toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Et pourtant, si Jésus prend soin de l'Église, eh bien on comprend que le prix a été payé, que les dominations ont été dépouillées, que le diable a été dépouillé. dans son pouvoir, même si d'une certaine manière il demeure. Je crois que l'influence qu'il exerce ne devrait pas nous atteindre. L'influence qu'il exerce ne devrait pas nous dominer. L'influence qu'il exerce ne devrait pas nous envahir, certainement pas. Quand même, frères et sœurs, ça fait réfléchir quand il est dit que vous avez tout pleinement en lui. Tout, ça veut dire quoi ? Tout. Tout. Tout pleinement en Christ. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à ce rapport de Néhémie ? Quand Néhémie a demandé des nouvelles, hey, comment ça se passe à Jérusalem ? Racontez-moi un peu la vie à Jérusalem. Et on lui a dit, ils sont combles de l'opprobre et du malheur. Il n'y a plus rien qui va là-bas. Ils sont totalement désespérés. Il n'y a plus rien qui fonctionne. La muraille est détruite. Les portes de Jérusalem sont en feu. Bref, c'est laissé, pour ainsi dire, au chacal, au renard. Voilà, quoi. C'est dramatique. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, la situation. On prend des coups tous les jours, on reçoit des mauvaises nouvelles tous les jours, et on regarde passer le train, on regarde les choses, on regarde les mauvaises nouvelles arriver, et on dit, c'est comme ça. C'est pas possible. On ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Il faut qu'on réagisse, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'il se passe quelque chose. On ne peut pas rester dans cet état-là. Alors, il me semble que, frères et sœurs, chacun d'entre nous, voilà pourquoi j'insiste, c'est certainement plus un plaidoyer qu'autre chose, ce que je vous dis ce matin. Il faut réagir parce que ça ne peut pas durer, ça ne doit pas durer. Ça ne peut pas continuer comme ça, ce n'est pas possible. Parce que quelque part, on a la méthode. Il nous suffit juste de l'appliquer, la méthode. La méthode, on l'a, on sait exactement ce qu'il faut faire. Alors on va y revenir et c'est pour ça que j'ai lu finalement ces remarques de Néhémie. Parce que la méthode, elle est très claire dans le livre de Néhémie, du chapitre 1er au chapitre 6. On a finalement tout le descriptif de quelle manière les choses devaient s'accomplir. Alors, on va revenir dans vos Bibles sur ce qu'il est dit dans Néhémie. Et la première chose qui est évidente, c'est que quand on apprend des mauvaises nouvelles, ça nous fiche un coup. Si ça vous fait rien d'apprendre de mauvaises nouvelles, que quelqu'un ne vient plus à l'église, que quelqu'un est atteint d'une maladie, subite, que quelqu'un, qu'un couple se déchire, qu'une famille est à la dérive, si ça vous fait rien, inquiétez-vous, hein. Inquiétez-vous, ça doit vous faire quelque chose. Et normalement, ça doit vous faire ça. Ça doit vous abattre, comme le pauvre Néhémie a été abattu. Ça ne peut pas nous laisser indifférents, c'est pas possible. C'est obligé que ça va provoquer quelque chose en nous. Mais ce que je note, et on va le lire ensemble, c'est que quand Néhémie a demandé des nouvelles, et on va s'arrêter sur plusieurs de ces lectures, ce sera l'argument principal, on fera que revenir sur quelques détails. Mais quand Néhémie a demandé des nouvelles et qu'on lui a dit ce qu'il en était, vous avez vu sa réaction ? Je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Mes frères et sœurs, il faut prier. Voici ce qu'il dit au verset 5 du chapitre 1er. « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. » Car moi et la maison de mon père, nous avons péché, nous t'avons offensé, nous n'avons point observé tes commandements. Les lois, les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur, souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel... De là, je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi au mois de Nisan. la 20e année du roi Taxerces, comme le vin était devant lui, je pris le vin, je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Et là, je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi. Et la suite, nous le verrons dans un moment. Quand Néhémie apprend la nouvelle, il est ébranlé. Et vous comprenez que son abattement vient de son intérêt pour les autres. Finalement, il est peut-être beaucoup plus atteint par les nouvelles qu'il apprend des autres, peut-être que par les siennes. Remarquez, pour lui, tout va bien. Il est chanson du roi, il a une situation privilégiée quand même. Il est dans un endroit où il manque pas de nourriture, tout va bien pour lui, franchement tout va bien. Il aurait pu s'en contenter en disant, tout va bien pour moi, je suis quand même exilé, je ne l'ai pas voulu, mais bon. Et regardez la prière qu'il fait. Il s'inclut dans la prière alors que manifestement, il est peut-être un de ceux qui y est pour le moins de cette situation-là. Lui a été intègre devant Dieu, lui a marché devant Dieu. C'est les autres qui ont mal fait, mais quand il va prier, il va se mettre au même niveau que les autres et il va dire, Seigneur, pardonne nos erreurs, nos erreurs. Si on en est là, c'est de ma faute aussi. Finalement, quel intérêt pour les autres, c'est assez incroyable. Et je me dis que finalement, il veut savoir comment ça se passe et comment se porte Jérusalem. Je vous poserai la question, est-ce que vous allez bien? Et si vous allez bien, interrogez-vous et posez-vous la question, pourquoi je vais bien? Juste comme ça, pour faire un petit peu le point. Pourquoi est-ce que je vais bien? Maintenant, si je vous pose la question, est-ce que vous allez mal? Posez-vous aussi la question de savoir pourquoi vous allez mal. Mais posez-vous en fait la vraie question, est-ce que je vais bien? Est-ce que je vais mal? Pour des raisons personnelles. Ou est-ce que je vais bien? Est-ce que je vais mal? Pour le bien d'autrui. Est-ce que je vais bien, je vais mal, que parce que je ne regarde que ma vie, que ma situation, que ce qui est bien, ce qui est mal en moi, parce que j'ai passé une bonne semaine, parce que j'ai eu des difficultés, parce que ça a été compliqué, parce que ça a été facile cette semaine? Est-ce que le baromètre, c'est ça? Ou est-ce que le vrai baromètre, c'est pas moi d'abord, c'est les autres d'abord? Est-ce que je vais pas bien ce matin parce que dans la semaine, j'ai appris qu'un tel allait mal? Est-ce que je vais bien ce matin parce que j'ai appris qu'une telle allait drôlement bien, que Dieu l'avait bénie, qu'elle avait été guérie, qu'elle avait été délivrée? Est-ce que c'est ça mon bonheur? Ou est-ce que c'est juste parce que je vais bien ou je vais pas bien? Est-ce que j'ai mon bien-être est protégé ou est-ce que j'ai été malmené cette semaine? Vous comprenez que Néhémie appartient au corps. Nous sommes le corps de Christ, non? C'est ce qu'on a lu. Christ est la tête. Et nous sommes le corps. Mais on a lu que, logiquement, le corps doit être en forme puisque Christ le nourrit. Christ en prend soin. Christ s'en occupe et il l'aime. Mais il s'en occupe au quotidien, donc il m'aime. Il s'occupe de moi. Mais il s'occupe de mon frère et de ma sœur aussi. Et si mon frère et ma sœur va mal, l'Écriture dit que quand quelqu'un est dans la souffrance, tout le monde pleure avec et tout le monde prie pour qu'il soit relevé. De façon concrète, on a des exemples concrets. Ça fait plusieurs années, ça va faire 4 ans, qu'on prie pour Marion. Faut que ça s'arrête. Il y a d'autres cas qui sont pour nous évidents, où la vie est devant nos bien-aimés, et il faut que ça s'arrête, le malheur, il faut que ça s'arrête. Il ne faut pas dire, c'est comme ça, et chaque semaine on prie, de toute façon, on n'y peut rien. D'une certaine manière, on n'y peut rien. Mais est-ce que c'est notre rôle, comme Néhémie, de dire « Oh là là, quel drame, mais moi je ne vais rien faire quand même pour que ça change. » Il faut faire quelque chose pour que ça change. C'est pas possible. Je vous donne un exemple, mais on en a d'autres. On parle de l'évangélisation, on parle de ceux qui ont quitté l'Église il y a peut-être 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans. C'est pas normal. Ils sont en dehors de l'Église, tout va bien pour eux. Enfin, c'est ce qu'on doit se dire, puisqu'on ne prie même plus pour eux. C'est ce qu'on doit se dire, on les oublie. Parce qu'on ne les voit pas, ils ne sont pas constamment devant nous. Si vous avez peur d'en oublier quelques-uns, écrivez leur nom sur une feuille de papier. Comme ça, vous éviterez de les oublier. Parce que la vie est faite comme ça. En général, tout ce qui vient comme information chasse l'information la plus ancienne. Et comme ce n'est pas au devant de nos yeux, on finit par oublier. C'est naturel, c'est normal. Mais quelque part, Est-ce qu'on se satisfait de ça encore et on dit, ben, c'est comme ça, il y a de la place pour d'autres personnes? C'est pas possible, frères et sœurs. C'est pas possible. L'intérêt des autres, le bien pour les autres. Je ne peux pas être heureux quand je sais qu'un tel n'est pas guéri, quand je sais qu'un tel ne revient pas à l'église, je ne peux pas être heureux. Alors je ne vais pas devenir non plus neurasthénique et je ne vais pas non plus tomber dans un abattement perpétuel, évidemment, parce que la joie du Seigneur est notre force. Mais quand même, frères et sœurs, l'intérêt des autres, ça doit rentrer en compte dans mon bien-être. Il n'y a pas que ça, mais ça doit être un facteur de mon bien-être. Je ne suis pas uniquement tourné vers les autres. Je regarde évidemment à ma vie personnelle, mais les deux doivent marcher ensemble. Alors on a le droit d'aller bien, et d'ailleurs ce sera tant mieux, parce que si on va bien, on sera encore plus efficace pour aider les autres. Ça c'est évident. Alors Néhémie appartient au corps, et Néhémie ira mieux, c'est ce qu'il dit. Il ira mieux quand à Jérusalem, ça ira mieux. Pour lui c'est clair. Et on s'est tellement réjoui quand on a vu les frères et sœurs revenir à l'église. Waouh, que c'est réjouissant, c'est pas vrai? Ah, c'est réjouissant, hein? Quand on en voit revenir comme cela, qu'est-ce qu'on est heureux. On bénit Dieu pour ça. Évidemment, ça fait notre joie, notre bonheur. Mais il faut que la gloire de Dieu qui a disparu de Jérusalem revienne. Il faut que se lève sur Jérusalem des temps nouveaux. Alors, j'en viens à ceci qui est mis à l'écran, ce verset de l'apôtre Paul, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 9. Où il est dit ceci, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Néhémie savait, malheureusement, que la nouvelle était mauvaise. Alors il a pris un coup, ça l'a abattu d'une certaine manière, mais gloire à Dieu, très rapidement il s'est relevé. Très rapidement il s'est relevé et il a décidé d'affronter cette situation. J'apprenais dans le journal, et c'est bien triste, que un boxeur professionnel, cette semaine, est mort suite à un combat, 25 ans. Il a pris des coups, il a été KO, il a été sorti sur une civière au cinquième round. Je ne sais même pas qui c'est, on ne le connaît pas. Hein. Voilà, il a fait une hémorragie interne, puis il est mort. Il a été abattu, mais malheureusement, il est mort. Le chrétien peut être abattu, prendre des coups, mais notre espérance est vivante, frères et sœurs. Et on n'est pas perdu. On a toujours un recours, on a toujours une solution. Alors, Néhémie, c'est quelqu'un qui est décidé, et on va voir pourquoi. Chapitre 2, verset 3. Quand le roi lui pose la question, « T'es pas bien, je vois que t'es pas bien aujourd'hui. » C'est quand même assez incroyable. Il dit, « Je vois que t'es pas bien, et je suis sûr que c'est quelque chose qui affecte ton cœur. » C'est pas mal quand même, hein? Belle perception des choses, hein? Vous savez, si les problèmes des autres n'affecte que notre intellect, en fait, ça ne nous touche pas. C'est quand ça touche notre cœur que ça nous affecte vraiment, évidemment. C'est quand ça touche notre cœur. Et là, il est un peu embêté quand même, parce qu'il va le dire, il ne va pas le dire. Il est un peu saisi de crainte. C'est ce qu'on a lu ensemble, et regardez ce qu'il va dire. À partir du verset 3 jusqu'au verset 20, on a affaire à quelqu'un de totalement décidé. « Que le roi vive éternellement. Comment ?» N'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais encore le Dieu des cieux. Ça a dû se faire dans sa tête, hein, rapidement. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors combien ton voyage durera et quand seras-tu de retour. Il plut au roi de me laisser partir, je lui fixai un temps, puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ses lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambalat, le Horonite, le Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur, au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait point de place où on pût passer la bête qui était sur moi. Je montai de nuit par le torrent, je considérai encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite, ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été avec moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambalat, Tobija et Geshem, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Néhémie est décidé. Pourquoi est-ce qu'il est décidé? Parce que pour lui, il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser les choses comme ça. Frères et sœurs, dans toutes les situations que l'on essaye de gérer, tous nos malheurs, toutes nos peines, toutes nos douleurs, toutes nos difficultés, mais qu'est-ce qu'on peut faire à part prier? Déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus élémentaire. C'est même la chose la plus facile à faire. Vous pouvez le faire tous les jours, quand vous voulez, à la maison, au travail, en route, partout vous pouvez le faire. C'est quand même incroyable. On jouit d'une liberté extraordinaire à ce niveau-là, d'une liberté incroyable. Cet homme, il n'est pas engagé que dans ce combat-là, mais pour lui, c'est simple. On ne va pas attendre que les autres se bougent, on va commencer à le faire. C'est fou comme aujourd'hui la société est faite d'assistanat. Vous avez vu, il y a des coachs en tout maintenant. Je ne suis pas loin de penser que bientôt on appellera les pasteurs des coachs. Hey coach, coach Stéphane, qu'est-ce que je dois faire cette semaine? Je ne suis pas loin de penser ça. Tout est coaching aujourd'hui. Management, même dans certaines églises, ça marche comme ça. C'est bizarre. Si le gars, c'est un bon manager, alors l'église va bien. On se pose des questions quand même. Ouais, c'est surprenant. Aujourd'hui, il faut toujours attendre qu'il y en ait un qui fasse pour faire après lui. Pourquoi vous attendez qu'un autre commence à prier pour prier? Pourquoi vous attendez qu'un autre vous dise « Je vais à la réunion de prière, tu viens avec moi pour venir ?» Pourquoi vous attendez? Pourquoi on reste dans nos habitudes? C'est fou comme on a des habitudes. Je vais vous donner un exemple très simple. Et partout où j'ai été, je l'ai vérifié. Donc ce n'est pas spécifique à ici. Partout où je l'ai vérifié. Parce que partout où on a été, enfin pas partout, mais à partir d'un moment où on s'est trouvé dans certaines églises, on a institué des jeûnes et prières. Jeûnes et prières. Dans la semaine, comme ça, vient qui veut. Au bout d'un moment, le noyau se forme et c'est toujours les mêmes. C'est bizarre, hein? Le noyau se forme, ça commence à 3, 4, 5, 15, 20... 25, ça redescend à 15. Et vous savez qu'après, la moyenne, ce sera entre 15 et 20. Eh bien, ça ne bouge jamais. Et là, je m'étonne. Je me dis, c'est fou, ça. Comment ça se fait que ça évolue pas? Parce que c'est rentré dans les normes, c'est rentré dans l'habitude. C'est comme ça. Cette réunion, j'ai jamais été, pourquoi j'irai? J'ai une réunion comme je pourrais parler d'autre chose. Et ça s'est toujours vérifié. Sauf, ça c'est incroyable, quand on a eu des coups durs. C'est arrivé qu'on ait des coups durs, un drame, un accident, quelque chose de terrible, où des frères et sœurs se retrouvent entre la vie et la mort, là, comme fait exprès, la semaine suivante, il y a 40 personnes au jeûne et prière. Mais ne riez pas, c'est dramatique, quoi. C'est quand même dramatique. Tant mieux qu'il y en ait 40, évidemment, pour soutenir ses bien-aimés. Mais quelques temps après, on redescend à 15. Alors, il n'y a peut-être pas encore un accident toutes les semaines, heureusement. Hein. Il n'y a pas quelqu'un entre la vie et la mort toute la semaine. Quoique, il n'y en a pas qu'un entre la vie et la mort toute la semaine. Sauf qu'on ne le connaît peut-être pas, c'est le voisin du dessus qui a envie de se suicider, c'est à l'autre bout de la ville, c'est quelque part en France, quelque part. Il y a toujours des cas tragiques, toujours. Pourquoi est-ce qu'on entre dans des normes comme ça? Et quelque part, je me dis que c'est peut-être un défaut de la nature humaine. On attend toujours qu'un autre fasse pour faire. Heureusement que Néhémie n'a pas attendu qu'il y en a un autre qui se lève pour aller à Jérusalem, parce que les portes seraient restées en feu et la muraille n'aurait jamais été rebâtie. Vous entendez? Jamais. Si lui ne s'était pas levé, jamais personne ne l'aurait fait. D'ailleurs, quand il va arriver à Jérusalem, il va prendre le temps de considérer la chose. Hein. Vous avez vu que pendant 3 jours, il va rester là, il ne va rien dire à personne. Il va même sortir de nuit pour faire le tour de Jérusalem. Et vous avez remarqué, 2 fois, c'est noté, il va passer par telle porte, telle autre porte, considérant. Il va considérer les choses. Je me dis qu'à un moment donné, il va s'arrêter, il va regarder, puis il va examiner, puis il va réfléchir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on pourrait faire? C'est pas possible qu'on en soit arrivé là. C'est pas possible qu'on en soit réduit à cela. Et puis il continue son parcours et à un moment donné plus tard, il s'arrête à nouveau. Est-ce que c'est le poids du malheur? Est-ce que c'est la détresse? Est-ce que c'est la souffrance? Mais qu'il arrête à ce moment-là où la vision de ce qu'il voit qui est encore plus cauchemardesque que ce qu'il imaginait, mais il s'arrête encore et il considère encore la chose. Quelqu'un qui va pas prendre des décisions à la légère. Hein. C'est pas un feu de paille. Il ne va pas se lever en disant « Eh, faut réagir !» Un petit peu comme certainement quand on est face à l'urgence, on se mobilise. Et puis l'urgence disparaît de devant nos yeux et hop, on reprend le quotidien. Le quotidien. Il s'est bougé, hein. Il a réagi. Finalement, il a saisi cette occasion quand le roi lui dit « Tu vas pas bien. C'est quoi ton problème? Dis-moi ton problème !» Il fallait être courageux pour... Alors il a vite prié en disant « je dis pas, bon ben je dis, je t'explique, voilà je te dis tout ». Et quand le roi dit « bon ben écoute, je comprends, c'est légitime », le roi il n'en avait rien à faire de Jérusalem, hein. Rien à faire. Hein. Faut pas oublier quand même que c'est un captif, ce Néhémie-là. C'est quand même un déporté, hein. C'est quand même quelqu'un qui vient d'un pays qui a été conquis. Donc le roi, il a rien à devoir à Néhémie, mais bizarrement, il est touché par ce qui arrive. Alors il va lui dire, ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour te rendre le sourire? C'est comme si le roi lui donne ça, vous avez compris, hein, et lui dit, ben, écoute, c'est bien gentil, mais moi je veux le bras entier. Alors j'ai besoin d'aller là-bas, j'ai besoin que tu me donnes des lettres, j'ai besoin de ne pas être arrêté à la frontière, j'ai besoin que tu envoies des mots pour qu'on prépare le bois, etc. Combien de temps ça va durer? Bon, je compte, voilà, ça va durer telle durée. On imagine qu'il a été peut-être un petit peu large quand même. Bref, il y a un trou de souris qui vient de s'ouvrir et lui, il défonce la porte. J'aime beaucoup ce caractère-là. Il est drôlement ambitieux. Il en veut drôlement. Mais il a raison. Après tout, il a passé des jours dans la prière et dans le jeûne. Il faut que ça serve à quelque chose. Hein. Si après avoir passé des jours dans le jeûne et dans la prière, on n'est pas capable de demander ça à Dieu, c'est dommage. Il faudrait quand même dépasser que cela nous permette de dépasser nos limites. Et je crois, frères et sœurs, que plus nous passons du temps devant Dieu dans la prière, et plus nous sommes transformés. Moi, j'en suis convaincu. Plus vous serez transformés à passer du temps devant Dieu. Alors, il risquait juste qu'on lui dise non, mais il a visé grand, il a visé haut. Et il a eu raison, quand même. Quand nous lisons, vous avez tout pleinement en lui. Je vous l'ai lu tout à l'heure. Hein. Mais je mets en parallèle ce qu'il est dit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3 et au verset 20. « Or à celui qui peut faire, vous connaissez ce passage, hein, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Alors à lui, soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Vous n'avez pas envie que la gloire se manifeste un peu plus dans l'Église, frères et sœurs? Qu'on arrête de prier pour les mêmes, parce qu'ils seront guéris. qu'on arrête de pleurer sur ces divisions, ces déchirements, quand on entend qu'ici et là ça va pas bien, quand on voit que certains perdent courage et se laissent aller, on les voit de moins en moins à l'église. Vous voulez pas que le circuit s'inverse? Vous voulez pas que ça s'inverse? Oui ou non? Vous voulez pas? Si, moi j'ai envie que ça s'inverse. Néhémie le voulait. Il le voulait terriblement. Il a voulu que ça s'inverse. Ça peut pas durer comme ça. Douter de la puissance de Dieu, ben c'est juste certainement ou tout simplement indigne du Dieu que nous servons. On ne peut pas douter de la puissance de Dieu et ne pas réclamer et ne pas revendiquer cette autorité de Dieu dans toutes les situations. Je pense que c'est une erreur, je pense que c'est une faute. Se contenter d'opprobre, de malheur, de ruine, les portes sont en feu, regarder en quel état malheureux ils sont, c'est pas possible de se satisfaire d'un discours comme ça. On ne peut pas se satisfaire d'un tel discours. C'est pas possible. Voilà pourquoi Néhémie était décidé. Et voilà, frères et sœurs, pourquoi il nous faut être décidés. Décidés. Il faut prier maintenant, frères et sœurs. Il faut y aller. Dans la prière, il faut vraiment demander à Dieu sa grâce. Et je termine en vous rappelant que Néhémie, c'était un combattant. Et un sacré combattant. J'avais lu il y a de nombreuses années de cela, très nombreuses années de cela, un livre de Pearl Buck qui s'appelait « L'ange combattant ». On m'avait prêté cet ouvrage. Et cette écrivaine raconte la vie de ses parents, missionnaires en Chine, et raconte que son papa, alors c'est un livre, j'ai plus beaucoup de souvenirs de ce bouquin, mais il m'avait marqué quand même, parce que c'est très paradoxal dans ce bouquin, vous avez des choses surprenantes. Alors, ce n'est pas un plaidoyer pour l'œuvre missionnaire, hein. C'est juste pour raconter la vie de son père. Elle a écrit des tas de bouquins qui n'ont rien à voir avec tout ce qui est chrétien. Mais à un moment donné, elle écrit, et ça m'avait surpris, elle écrit que son papa était très grand, faisait presque 2 mètres, et il allait dans les villages en Chine annoncer l'évangile, et des fois ça se passait mal. Et il y avait des personnes qui se jetaient sur lui pour le maltraiter. Et elle raconte, comme il était grand et que les Chinois étaient petits, il en prenait un de sa main gauche, il en prenait un de sa main droite, et il frappait les têtes les unes contre les autres. Vous imaginez? Parce qu'il voulait lui faire du mal, boum, il les assommait par terre comme cela. Moi, j'avais été traumatisé en lisant ça. Je me suis dit, drôle de méthode d'évangélisation quand même. C'est assez surprenant. Mais voilà, c'était l'image de ce qu'était la vie de son père avec ses failles, avec ses défauts. Mais avec son engagement pour Dieu, évidemment. Mais le titre, l'ange combattant. Finalement, l'Écriture dit que notre Dieu combat pour nous, frères et sœurs. Ce n'est pas un ange qui combat, c'est Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas un ange qui mène bataille, même si les anges mènent bataille contre les dominations des autorités dans les lieux célestes, mais au commandement divin. Au simple commandement de Dieu, j'aimerais qu'on se souvienne quand même que Néhémie a été combattant parce que ça a été un homme de prière. Vous avez au moins 10 références au fait que Néhémie ait prié. Je peux vous les citer, si vous voulez. Néhémie, chapitre 1, verset 4, on l'a lu ensemble. « Je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Chapitre 2, verset 4, quand le roi lui pose la question, « Je priais le Dieu des cieux. » Chapitre 4, verset 4, « Écoute, ô Dieu, écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. » Et la suite. Chapitre 5, verset 19, « Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. » Chapitre 6, verset 9, chapitre 6, verset 9. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Verset 14. Souviens-toi, ô notre Dieu, de Tobija, de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse et des autres prophètes qui cherchent à m'effrayer. Chapitre 13, verset 14. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison d'Israël. Verset 22. J'ordonnais aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, Ô mon Dieu, verset 29, souviens-toi d'eux, et verset 31, souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. Il n'a cessé de prier tout au long de son service pour Dieu. Pourquoi je vous dis cela? Parce que la prière, l'intercession, ça reste la clé de voûte, hein, forcément. Des fois, on prie avant parce qu'on ne sait pas comment les choses vont se dérouler. Et il faut le faire. D'autres fois, on prie pendant parce qu'on a besoin de l'aide de Dieu. Et on n'oublie jamais de prier après pour lui dire merci, parce que ça s'est réalisé, parce que ça s'est fait. On devrait certainement, bien aimé, faire beaucoup plus d'efforts dans la prière, certainement. On devrait prier davantage. Je n'ai pas tout lu, mais vous le verrez. Il a eu besoin de prier pour surmonter les moqueries, les menaces, les craintes, la ruse, la traîtrise. Même un prophète a voulu le tromper, vous vous rendez compte? Il a surmonté les accusations, il a surmonté les calomnies. Il a prié, tout simplement, parce qu'il savait ce que Dieu pouvait faire. Il savait ce que Dieu voulait faire. Frères et sœurs, on en a marre, parce que vous en avez marre, vous aussi, de voir tous ces cas douloureux, de maladies, de conflits, de situations qui dégénèrent, parce que le diable est animé d'une grande colère. Mes frères et sœurs, est-ce que notre Dieu n'est pas plus fort? Est-ce que notre Dieu n'est pas plus fort? Est-ce que notre Dieu n'a pas tout accompli à la croix? Est-ce que Christ n'a pas triomphé? Alors, frères et sœurs, moi, je vous engage à la prière. Je vous engage à la prière. Priez, 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 priez. Et on se réjouit, hein, quand on est ensemble à la prière, le jeudi, même si on n'est que 15. Mais peut-être qu'après ce que je vous ai dit, vous allez être repris dans votre conscience et vous allez venir, peut-être. Parce que vous avez du temps, parce que vous avez un laps de temps, vous êtes en vacances, vous êtes à la retraite, vous avez du temps. Imposez-vous cela, pourquoi pas? Après tout, est-ce qu'on ne s'impose pas des tas de choses? Et vous verrez, ce n'est pas pour vous que vous le faites, vous comprenez? C'est pour les autres, ce n'est pas pour notre bien-être, c'est pour le bien-être de l'Église. Ce n'est pas pour ma satisfaction personnelle, c'est pour la satisfaction d'avoir servi Dieu, d'avoir simplement servi Dieu. Et puis, si c'est impossible le jeudi, ben, ce n'est pas grave, vous avez deux occasions de vous rattraper le vendredi, ou l'après-midi, ou le soir. On a des possibilités, franchement. Et quand je vois, parce que je le sais, parce que c'est comme ça, parce que c'est partout comme ça, quand je vois pour quelles raisons on ne vient pas, j'ai envie de faire comme Néhémie, hein, de pleurer et de jeûner, et de prier en disant « Seigneur, souviens-toi de nous, souviens-toi de nous, souviens-toi de nous ». Alors que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Ce n'est pas une prédication, hein, c'est un plaidoyer. Hein. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. On a besoin de ça. Il faut réagir. Il n'y a qu'une seule façon de réagir. Il faut prier. On veut que nos malades soient guéris. On veut que ça s'arrête. Il n'y a pas de maladie incurable pour Dieu. Il n'y a pas de problème incurable pour Dieu. Il n'y a pas de situation qui ne changeront jamais pour Dieu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a que des situations où Dieu se glorifie, où Dieu fait des miracles, où Dieu fait des prodiges d'une manière ou d'une autre, alors que Dieu le fasse. En fin de semaine, il y avait des dizaines de personnes devant moi, et pour certaines, aux obsèques de Jean-Claude Istria, il y en avait des dizaines qui ont connu l'Église, qui ont entendu des messages d'évangélisation, d'édification. Ils ont suivi les enterrements de ceux qui, dans cette famille, marchaient avec Dieu. Ils sont entrés dans ce lieu. Ils ont entendu l'Évangile. On veut qu'ils soient sauvés, on veut qu'ils reviennent. Et combien d'autres exemples comme ça? Frères et sœurs, que Dieu bénisse ceux qui entendent le message de la grâce. On est un instrument entre les mains de Dieu pour les bénir, pour qu'ils soient bénis et pour qu'ils entendent l'appel divin et qu'ils reviennent pour célébrer Dieu avec nous. Amen. Allez, on se lève ensemble. Et vous savez ce qu'on va faire? On va prier. Amen. On va prier maintenant. Et on va faire comme Néhémie. On va faire comme Néhémie qui s'est humilié devant Dieu. Pourtant, il n'avait pas de raison de s'humilier. Il s'est humilié pour son peuple, il s'est humilié pour la légèreté de ses frères et sœurs à Jérusalem qui ne faisaient rien, qui ne bougeaient pas, qui restaient dans l'accusation, qui restaient dans le malheur, qui restaient sous l'oppression du diable et de leur ennemi. Ils ne bougeaient plus, ils étaient vaincus, ils étaient anéantis. Et Néhémie s'est humilié devant Dieu en disant « Pardonne Seigneur, pardonne nos fautes, pardonne notre péché, pardonne notre manque de consécration, pardonne notre manque de vision, pardonne notre manque de zèle, pardonne notre manque manque de sincérité, pardonne notre manque d'envie, pardonne Seigneur, pardonne. Alors je te fais la même invocation, la même prière, je te réclame la même chose, Seigneur, pardonne nos lassitudes, pardonne nos manquements, pardonne nos faiblesses et donne-nous de devenir des combattants dans la prière, donne-nous de devenir des hommes et des femmes décidés, des hommes et des femmes qui peut-être auront été abattus un moment, mais jamais perdus, parce que tu as remporté la victoire, jamais vaincu, parce que Christ a vaincu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous le proclamons, nous le disons, nous le croyons, et nous réclamons la guérison pour Marion, nous réclamons la liberté pour nos convalescents, nous réclamons la délivrance pour nos bien-aimés en détresse, nous réclamons le ciel pour ceux qui bataillent dans leurs vieux jours et ils attendent la fin avec un réel espoir. Alors donne-leur la liberté, donne-leur la délivrance. Nous réclamons le salut pour ceux qui sont perdus autour de nous, pour ceux de nos familles qui ne t'ont pas donné leur cœur. Nous réclamons le salut pour ceux qui s'égarent au quotidien. Nous réclamons le salut, nous réclamons une raison saine pour ceux qui perdent la foi, qui s'en vont dans des délires, qu'ils soient religieux, qu'ils soient missis, qu'ils soient autres. Seigneur, montre-leur la grâce, montre-leur que tu les aimes et que tu veux les sauver et les ramener dans ta maison, les ramener dans ta maison. Touche-les, je t'en prie. Fais ton œuvre dans leur cœur et donne-nous du zèle pour toi. Pardonne notre mollesse, pardonne notre peu d'action, pardonne notre peu d'envie, mais donne-nous, Seigneur, d'être zélés, engagés maintenant à te servir par la prière, à te servir en priant davantage, le matin au réveil, dès qu'on a un moment dans la journée, mais le soir avant de fermer nos yeux pour nous endormir. Oh, que nous soyons combattants, combattants, combattants dans la prière, plus que jamais combattants. Seigneur, viens nous en aide et glorifie ton nom, que l'Église soit relevée dans le monde entier, que l'Église soit plus belle dans le monde entier, mais que l'Église ici à Gap, à Vennes, à Digne, à Embrun, à Barcelonnette, à Briançon, que l'Église soit comme embrasée, qu'il y ait un réveil de Dieu, qu'il y ait des dizaines et centaines de baptêmes ici et là. Glorifie ton nom. Nous voulons voir les fruits de ce que nous avons semé, Seigneur. Nous voulons voir les fruits de ta parole dans les cœurs. Nous voulons voir la gloire et la puissance de Dieu se manifester. Viens par ton esprit. Viens au Saint-Esprit. Consume ce qui ne te glorifie pas et glorifie-toi dans nos vies encore pour la gloire de ton nom. Amen.